Journal d'Hélène Fromanti, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un pas de plus vers une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Moscou reconnaît l'indépendance des territoires séparatistes de l'Est ukrainien. Une invasion paraît imminente. Reportage dans le Donbass dès le début de ce journal. Nous serons aussi à Bruxelles qui condamne fermement et promet des sanctions. Et puis nous verrons si cette décision du Kremlin est synonyme d'un pari perdu pour le conciliateur Macron. La parole à la jeunesse sur France Inter, journée spéciale des candidats et des jeunes à moins de 2 mois de la présidentielle. Nous entendons les attentes pour le prochain quinquennat, du pouvoir d'achat à la vie étudiante en passant par l'environnement. Et votre invité, justement, Nicolas, est une des prétendantes à l'Élysée.
Il s'agit de Valérie Pécresse au micro d'Inter de 8h20 à 9h30 pour notre rendez-vous politique de campagne Élysée 2022, les candidats face au 7-9. Le standard est ouvert, vous attend, vous aurez largement la parole. 01 45 24 7000.
Pas assez de serveurs, de cuistots, de plongeurs dans nos restaurants. La faute, sans doute, à des conditions de travail trop rudes. Des négociations s'ouvrent entre syndicats et patronats. Les patrons, eux, font tout pour attirer des bras. Reportage à suivre. Et puis les confidences d'un condamné à mort en fin de journal. L'auteur Roberto Saviano, qui vit sous la menace permanente de la mafia napolitaine, couche sa solitude, ses peurs et ses angoisses sur le papier d'une bande dessinée.
France Inter.
Loin, très loin de la poignée de main encore espérée, pas plus tard qu'hier matin. C'est à l'inverse un bras de fer qui s'amorce entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine a donc reconnu hier soir, lors d'une allocution télévisée, l'indépendance des républiques séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine et donné l'ordre à son armée d'entrer dans ces territoires pour, je cite, y maintenir la paix. Pour l'heure, pas encore de calendrier précis pour cette arrivée des forces russes en Ukraine, mais les Ukrainiens gardent leur sang-froid tout en se préparant à une éventuelle invasion. Le reportage à Kharkiv, aux portes du Donbass de Valentin Dunat.
Alexandre, 55 ans, écoute avec attention le président russe sur son téléphone portable. C'est un ancien casque bleu et comme de nombreux Ukrainiens, il reçoit ses propos avec beaucoup de recul.
Franchement, ça me fait un peu sourire, parce que pour moi, cette déclaration vient d'une personne dérangée mentalement. Et puis, comme je vous le disais, pour avoir vu les Russes faire la guerre dans les années 90, ça n'était pas comme ça. Là, ça ressemble plus à un jeu.
Un jeu entre Américains et Russes, où les Ukrainiens ont le sentiment d'être instrumentalisés. Alexander en a vu d'autres, mais les plus jeunes, eux, craignent le pire, une invasion russe au-delà du Donbass. C'est le cas de Nicolas, 22 ans, étudiant.
Pour moi, il y a deux options désormais, la mienne et celle de ma famille. La mienne, c'est d'aller à l'ouest du pays et de m'engager pour défendre mon pays. Celle de ma famille, c'est d'émigrer en Europe dans un lieu sécurisé.
Pour l'instant, les Ukrainiens continuent de vivre comme si de rien n'était, avec dans un coin de leur tête l'idée que le pire peut toujours arriver.
Valentin Dunat à Kharkiv, dans le Donbass, pour France Inter. Pour tenter d'éviter la guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence tard hier soir, après que les Nations Unies ont largement condamné la décision de Vladimir Poutine. Quoi qu'il advienne, les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine resteront inchangées, prévient l'ambassadeur ukrainien à l'ONU. Et du côté de l'Union européenne, on ne reste pas les bras croisés. Réunion ce matin aussi à Bruxelles, où on retrouve tout de suite Angélique Bouin. Bonjour.
Bonjour.
L'UE, Angélique, va évoquer des pistes de sanctions.
Oui, réunion à 9h au niveau des ambassadeurs des 27 pour lancer le processus de préparation de sanctions ciblées. Cette annonce, c'est une violation flagrante du droit international et des accords de Minsk pour le président du Conseil Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen qui ont annoncé dans un communiqué des sanctions à l'encontre des personnes impliquées dans cet acte jugé illégal. Tandis que du côté de l'Élysée, on précise qu'elle pourrait aussi cibler un certain nombre d'activités localisées dans le Donbass et directement liées aux intérêts russes. La liste précise doit donc être discutée ce matin. Elle devra être formellement ensuite endossée par les 27 au niveau des ministres.
Et l'Europe parle-t-elle déjà d'une seule voix, Angélique ? Est-ce qu'il y a un consensus ou au contraire plusieurs lignes ?
Alors évidemment, il y a des intérêts divergents selon les États et leur situation de dépendance économique avec la Russie. On le sait par exemple en Allemagne, l'interruption du nouveau gazoduc Nord Stream 2 envisagé est une question sensible, tandis que les pays baltes poussent déjà pour restreindre le transfert de biens vers la Russie. Mais face à la gravité de la crise, nous sommes forts et unis, a réaffirmé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et l'unanimité requise est selon lui garantie. Mais les sanctions d'aujourd'hui devraient néanmoins être proportionnées à l'annonce d'hier, selon selon une source élyséenne. En clair, on ne devrait pas sortir tout de suite l'artillerie lourde. C'est en cas d'invasion militaire de l'Ukraine que la riposte massive, préparée depuis des semaines sans pour autant être dévoilée, pourrait bien être décidée. C'est sans doute en convoquant un sommet au niveau des dirigeants. On verra alors sur pièce, hein, si cela arrive, la détermination des Européens à taper très fort ou non contre la Russie de Vladimir Poutine.
Angélique Bois en direct de Bruxelles pour France Inter. Merci à vous. Vous venez de l'entendre en toile de fond. L'Élysée réclame donc aussi des sanctions contre Vladimir Poutine. Une quasi volte-face pour Emmanuel Macron qui se félicitait il y a 24 heures encore d'avoir presque arraché un sommet entre la Russie et les États-Unis. Simon Le Baron, le chef de l'État français s'est beaucoup activé ces dernières semaines sur le front diplomatique, repoussant même son entrée dans la campagne présidentielle chez nous. Finalement, tous ses efforts sur la scène internationale n'ont pas payé.
Eh bien non, et vous le disiez, la succession des événements paraît cruelle pour le chef de l'État. Hier matin, Emmanuel Macron pensait avoir arraché au forceps cette solution diplomatique. Quelques heures plus tard seulement, le président russe engage l'Europe dans l'escalade guerrière. Désillusion à l'Élysée où les conseillers du président n'hésitent plus à dénoncer le discours paranoïaque, la dérive idéologique du maître du Kremlin, oublié hein, le langage feutré propre à la diplomatie. Depuis un mois, le palais vantait pourtant la relation particulière construite par le président français avec son homologue russe, la réception à Versailles en 2017, l'invitation à Brégançon à l'été 2019. L'Élysée prenait même soin du jamais vu sous ce quinquennat de raconter en temps réel aux journalistes les coups de fil présidentiels. Le volontarisme diplomatique d'Emmanuel Macron se solde donc par un revers. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Déjà au Liban ou sur le nucléaire iranien, il n'avait pas porté ses fruits. Alors, mauvaise affaire pour le futur candidat à 47 jours du premier tour. Au moins, il aura tout tenté, répondent ses proches, qui préfèrent pointer du doigt les ambiguïtés plus ou moins assumées de certains de ses adversaires, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon en tête, vis-à-vis de la Russie.
Simon Le Baron, service politique de France Inter, merci. Et sur franceinter.fr, vous retrouvez un dossier complet sur cette crise en Ukraine. Ils sont 100, ils ont moins de 25 ans, et seront appelés à voter à la présidentielle dans moins de 2 mois, une première pour certains. 100 jeunes d'aujourd'hui qui ont accepté de débattre avec les principaux prétendants à l'Élysée pour cette journée spéciale des candidats et des jeunes organisée par France Inter et l'association Chemin d'Avenir. Face à eux donc, 7 candidats voulant tous porter la voix de la jeunesse, mais cette jeunesse qui s'est très peu déplacée il y a 5 ans, qui veut-elle comme président? Ira-t-elle voter cette fois? Et surtout, quelles sont ses priorités pour l'avenir? Élément de réponse avec ces jeunes que Mathilde Imberti a rencontrés à Lyon.
Les thèmes essentiels sont esquivés, regrette ce Lyonnais de 28 ans. Salarié dans l'informatique, 2000 euros net après 5 ans d'études, un accès au logement compliqué. Il ne se sent pas représenté, dit-il.
Pour moi, c'est vraiment le salaire, le pouvoir d'achat et même tout ce qui est éco-social qui m'importe plutôt que la sécurité, la sécurité aussi, mais plutôt que l'immigration et ainsi de suite. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment quel candidat fera le plus de sujets buzz, racoleurs et polémiques.
Lise attend, elle, davantage d'engagement pour l'environnement, étudiante en danse. 19 ans.
Pour sauver un peu la planète, quoi, pour éviter trop la pollution, le gaspillage alimentaire, les plastiques, l'environnement quand même. Enfin, c'est ce qui me touche le plus.
Thibault, en licence de sciences politiques, observe la précarité étudiante autour de lui.
Je trouve qu'on la retrouve peut-être pas assez dans les politiques, où ces questions de précarité. Peut-être plus récemment maintenant, mais est-ce que c'est pour les prochaines élections dans quelques semaines
Il se rendra aux urnes malgré tout pour sa première élection présidentielle.
On aura bientôt, j'espère, la fin du Covid. C'est important de voir l'après et on joue notre avenir.
Chez les moins de 30 ans, interrogés par l'Ipsos, 8 sur 10 entendent voter dès le premier tour le 10 avril. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et je rappelle donc cette journée spéciale, c'est à partir de 10h depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et en fil rouge toutes les heures sur l'antenne de France Inter. Les réponses des candidats face à ces 100 jeunes sont aussi à suivre sur notre site franceinter.fr, notre chaîne YouTube ou bien sur le compte Twitter du service politique d'Inter @interpolitique. La présidentielle, c'est aussi, on l'évoquait à l'instant avec Simon Le Baron, la course au parrainage et un nouveau décompte du Conseil constitutionnel attendu dans la journée pour chaque candidat parmi les principaux prétendants à l'Élysée. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen n'ont pas encore rassemblé les fameuses 500 signatures nécessaires à se présenter. Dans le camp socialiste, ce ne sont pas les parrainages qui inquiètent, non. En Corrèze, bastion historique du PS, les militants s'interrogent sur la ligne du parti et sur leur candidate, Anne Hidalgo. Hidalgo. Dans les environs de Tulle, le fief de l'ancien président François Hollande, la fédération du Parti Socialiste a même décidé de ne pas financer la campagne présidentielle de la maire de Paris. Le reportage d'Antoine Gignot.
La route serpente jusqu'à la mairie, au milieu des champs. Pas une affiche sur le trajet, pas un tract dans les boîtes aux lettres.
Il n'y a pas de campagne.
Éric Belloin est le maire socialiste de Saint-Clément.
Moi, je crois qu'il manque une vision. Je suis bien infoutu de vous dire, dans 20 ans, quelle société Anne Hidalgo propose. Il faut des marqueurs forts. Je crois qu'on n'a pas préparé le rendez-vous.
Ce n'est d'ailleurs pas forcément de la faute de la candidate, ajoute Christian Laval, secrétaire de la section PS du canton de Seillac.
Il aurait fallu trouver un leader. C'est ce qui nous a manqué, je crois, au PS. On ne bâtit pas un projet dans les trois mois qui précèdent une élection.
Et on ne finance pas une campagne nationale avec le budget des fédérations locales, ajoute Paul Roche. Le premier secrétaire fédéral PS de Corrèze refuse de répondre à l'appel du bureau national. Il ne prêtera pas d'argent à Anne Hidalgo. Ça ne s'est jamais fait. Question de principe, dit-il, tout en précisant qu'il soutient la candidate avec les troupes qu'il a.
Nous avons prévu des actions de campagne, des actions de terrain pour convaincre nos concitoyens. Nous faisons campagne avec celles et ceux qui en ont envie. Après, y a eu des personnes qui sont parties ailleurs. Hein.
Des départs que la création récente du comité de soutien corrézien d'Anne Hidalgo ne suffit pas à contrebalancer. Avec 350 militants, la fédération a perdu 2/3 de ses effectifs en 10 ans.
Antoine Gignot sur les routes de Corrèze pour France Inter. Rendre ses lettres de noblesse au secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est un peu l'enjeu des négociations qui débutent aujourd'hui entre les organisations patronales et syndicales de la filière sous l'égide du gouvernement. Avec au cœur des discussions les conditions de travail dans nos bars, nos restos, on le sait, pénibles, difficiles, qu'il faut donc à tout prix améliorer pour espérer attirer des recrues. Car depuis la crise sanitaire, la main-d'œuvre est une denrée rare. Alors pour attirer des salariés vers leurs établissements, les patrons mènent de front une opération séduction, Magali Homo.
Urgent, cherche serveur ou serveuse. Il n'est pas rare de croiser ce genre d'annonce à l'entrée des restaurants ou sur Internet. C'est le cas ici à Levallois-Perret.
En ce moment, je recherche 2 personnes directement en CDI.
Pour se distinguer, Fritz Agricole, le manager, fait la liste des avantages à travailler dans son établissement.
On a des avantages sociaux que les bars indépendants n'ont pas. Ensuite, nous, on fait tourner donc une semaine du matin et une semaine du soir.
Finalement, le plus souvent, c'est lui qui passe l'entretien et non pas le candidat qu'il a en face.
On n'est plus en concurrence d'établissement à établissement, on est en concurrence de personnel à personnel. On est un peu devenu marchand de tapis.
2 jours de repos consécutifs par semaine, salaire majoré le dimanche, 13e mois, d'autres redoublent d'imagination en misant sur des cours de yoga durant les coupures. Le bien-être des équipes, une priorité, mais difficile pour certains de promettre monts et merveilles, car la crise est toujours là. Valérie Sass-Lovicki, à la tête d'un restaurant dans le 8e à Paris, juge la situation trop bancale et les aides ne suivent pas.
Ce sont des moins 50% au mois de janvier, des moins 40% au mois de décembre. Février n'est pas tellement mieux. On peut se dire que c'est très dommage d'avoir soutenu nos entreprises, notre secteur d'activité depuis 2 ans et aujourd'hui nous laisser dans des difficultés extrêmement importantes.
Aujourd'hui, 200 000 postes sont toujours vacants dans le secteur.
Magali Homo. Après 48 heures de garde à vue, l'adolescente à l'origine de l'accident mortel de chasse ce week-end dans le Cantal doit être déférée ce matin devant le tribunal d'Aurillac. Une information judiciaire devrait être ouverte à l'encontre de cette jeune femme de 17 ans. Le corps de la randonneuse de 25 ans décédée suite au coup de feu doit par ailleurs être autopsié dans la journée. Lui risque sa vie à toute heure du jour et de la nuit et se raconte dans une bande dessinée. Roberto Saviano, l'auteur du roman Enquête Gomorra consacré à la mafia napolitaine Camorra. Il signe aujourd'hui Je suis toujours vivant avec le dessinateur Azaf Anouka. Ensemble, il raconte le quotidien de Saviano, l'un des écrivains les plus menacés au monde, sans cesse dans la ligne de mire des mafieux italiens, Amélie Perrier.
Une vie en sursis. Roberto Saviano ne regrette à aucun moment le choix qu'il a fait de témoigner. Pas question ici de se plaindre, juste de raconter le coût d'un tel engagement contre la mafia. Le coût psychologique surtout, car l'écrivain nous livre sa solitude, l'impossibilité de toute relation familiale ou amoureuse, les peurs et les angoisses. Il raconte froidement, par exemple, tous les scénarios élaborés pour le faire tuer, de la fusillade dans les toilettes d'un relais autoroutier à l'empoisonnement dans une pizzeria. Il raconte aussi l'absurdité d'une vie sous protection, sur une île coupée du monde ou en plein New York, pas très loin d'autres écrivains persécutés comme Salman Rushdie. Au dessin, le trait ciselé, quasi clinique, de l'illustrateur israélien Asaf Anouka, qui a participé au film d'animation « Valse avec Bachir ». Il a su saisir la cruauté d'une telle existence, mais aussi La liste de Saviano, de ce qui fait que la vie mérite d'être vécue, cela va de la mozzarella de Buffon d'Aversa aux notes de Bill Evans jouant ce thème de jazz.
Amélie Perrier du service culture de France Inter, et donc cette bande dessinée de Roberto Saviano et Azaf Hanouka s'intitule « Je suis toujours vivant », une coédition Gallimard-Steinkiss. Les footballeurs de Lille, loin d'être favoris, vont tenter quand même l'exploit ce soir face aux champions d'Europe en titre, le LOSC sur la pelouse de Chelsea à 21h en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Immense défi en Grande-Bretagne pour les Lillois champions de France, mais seulement 11e de Ligue 1 actuellement.
Merci Hélène Fromanti. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et une nouvelle perturbation, Marie-Pierre, arrive par le nord.
Eh oui Nicolas, mais comme l'anticyclone des Açores s'était renforcé hier, eh bien cette perturbation sera atténuée apportant dès ce matin des petites pluies de la Bretagne à la Normandie Hauts-de-France, des pluies accompagnées d'un bon vent quand même près de la Manche, soufflant à 80 km/h, alors que le reste du pays garde encore quelques éclaircies et un soleil très généreux des Pyrénées aux Alpes à la Corse, mais sous le vent, dans la vallée du Rhône et autour de la Méditerranée, la Tramontane et le Mistral soufflant à 90 km/h, sous des valeurs vraiment inégales. Au plus bas, on relève ce matin 1 degré hier soir dans le Puy-Dôme, 2 à Fontainebleau, alors qu'il fait 14 à Figari et 11 à Caluire. Vous avez 6 à Paris, 1 degré en Lozère, mais 11 à Belle-Île.
Et contraste entre le nord et le sud cet après-midi.
Et oui, car la perturbation va glisser vers la Loire et les pluies qui gagneront la Vendée, le centre, entre l'Île-de-France jusqu'en Lorraine, et le ciel s'ennuagera des Charentes au massif central au Jura, alors qu'au sud d'une ligne qui relierait Bordeaux à Annecy, le soleil va briller, mais toujours sous un fort mistral et une forte tramontane, alors qu'en Corse, le vent sera calmé. Alors attention quand même au risque d'avalanche sur les Alpes. Et cet après-midi, au minimum, il fera 7 à Aurillac, 9 à Metz, 11 à au Havre et Chambéry ou Lille. Vous aurez 12 à Pornic, 13 à Paris, 15 à Bordeaux-Marseille, 18 à Perpignan, Toulon, Bastia, en se rappelant que le temps qu'il fait le jour de la Sainte-Isabelle dure jusqu'au rameau.
Merci.
C'est prévenu.
Oui, voilà, merci Marie-Pierre. Il est 8h17, vous écoutez France Inter.
Le 7-9. Listen anywhere. Huawei, Dubaï. Sur France Inter.
Et c'est Géopolitique, Pierre Aski, vous revenez. Pierre, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Évidemment, sur les annonces du président russe.
Oui, Vladimir Poutine avait entrouvert dimanche la porte à la diplomatie. Il l'a refermée lundi, brutalement, au mépris du droit international et de sa propre parole. L'escalade décidée par le président russe n'est pas l'invasion massive de l'Ukraine que tout le monde redoute depuis des semaines, en tout cas pas encore, mais elle constitue un acte politique, juridique et militaire extrêmement grave qui place la Russie sur une trajectoire de confrontation avec les Occidentaux. Que s'est-il passé entre dimanche, quand le président russe acceptait, lors de 2 entretiens téléphoniques avec Emmanuel Macron, le principe d'un sommet avec son homologue américain Joe Biden, et lundi, quand il décidait de reconnaître les 2 républiques séparatistes et d'envoyer son armée dans l'est de l'Ukraine, remettant en cause tout ce qu'il affirmait la veille. Les diplomates se disent sous le choc du discours prononcé hier soir par le président russe, que l'un d'eux, pesant ses mots, qualifiait de « paranoïaque ». On a vu un Poutine en colère, vindicatif contre l'Ukraine, accusateur contre les Occidentaux, puisant dans d'étranges références historiques les sources de sa décision fatidique.
Et quelle est, Pierre, la portée de cette décision?
Alors la reconnaissance des 2 républiques séparatistes, de Donetsk et de Luhansk, dans l'est de l'Ukraine, et l'envoi de l'armée russe officiellement pour maintenir la paix dans ces zones, constitue une violation délibérée des engagements pris jusqu'ici. La Russie est signataire des accords de Minsk, dont l'objectif est la réintégration au sein de l'Ukraine de ces 2 entités séparatistes. Moscou piétine ces accords alors que Poutine avait confirmé, il y a encore quelques jours, qu'il les respecterait. Mais surtout, il redessine une fois de plus les frontières d'un pays souverain, comme il l'a fait par le passé en Géorgie et en Moldavie, avec d'autres républiques russophones, la Transnistrie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, détachée de ses États et occupée par des troupes russes.
Et maintenant, Pierre, que se passe-t-il?
2 questions se posent, Nicolas. D'abord, les réactions occidentales, au-delà des condamnations et des premières sanctions qui devraient être adoptées aujourd'hui, seront-elles à la hauteur du défi? Mais surtout, Poutine va-t-il s'arrêter là? Premier test, lancera-t-il son armée à la conquête de territoires situés au-delà de la ligne de front et qui sont revendiqués par les séparatistes, comme le port de Mariupol sur la mer d'Azov? Si les troupes russes traversent la ligne de front, ce sera la guerre, ne nous y trompons pas. S'il s'en tenait aux deux entités séparatistes, il ne ferait que formaliser la mainmise russe qui existe en fait depuis 2014. La tentation du côté occidental sera alors de ne pas en exagérer la portée, car on aura échappé à la guerre généralisée tant redoutée. Mais à force de laisser l'appétit de Vladimir Poutine se développer aux dépens de ses voisins, la crédibilité de la dissuasion occidentale ne ferait que s'émousser. Une fois de plus, c'est Poutine qui mène la danse et qui se nourrit de la faiblesse de ses adversaires.
Merci Pierre, on vous retrouve tout à l'heure vers 9h25. Dans un instant, Valérie Pécresse face au 7-9, 8h20, 9h30.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce soir, concert exclusif de Métronomie.
Salut, c'est Joseph Mount de Metronomy. Nous allons fêter notre nouvel album Small World sur France Inter en direct de la Bounoie à Paris.
Metronomy en concert, c'est ce soir sur France Inter à partir de 21h.
Il est 8h21.
France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Candidat face au 7-9.
Et c'est une nouvelle édition de nos 7-9 grands formats que nous vous proposons aujourd'hui avec Léa Salamé. Je vous en rappelle le principe et l'ambition, dialogue au long cours avec un candidat, une candidate pour qu'il, elle, expose sa vision de la France sur l'économie, les relations internationales, l'écologie et la politique. Dans une vingtaine de minutes, amis auditeurs, vous aurez longuement la parole. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Passez autrement par les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Et notre invitée ce mardi est une femme, la candidate LR à la présidentielle. Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Après le flash de 9h, vous répondrez aux questions des éditorialistes et des spécialistes de France Inter. Dominique Seux sur l'économie, Sandy Dauphin sur l'écologie, Thomas Legrand sur la politique, Pierre Aski sur l'international. On vous interrogera aussi dans quelques instants sur l'international et l'Ukraine, évidemment. Et c'est Augustin Trapenard qui viendra mettre un point final à ce 7-9 grand format.
Alors commençons par une